Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Guyane, touchée par la grève générale, le mouvement débute doucement avec de nombreux barrages routiers. Les grévistes dénoncent notamment la dégradation de l'éducation. Reportage à Cayenne dans un instant. Et puis un invité dans ce journal pour comprendre la crise guyanaise, l'historien Serge Mamlamfouk, auteur d'une histoire générale de la Guyane française. Le camp Fillon demande à la justice d'enquêter sur un possible cabinet noir à l'Élysée. François Fillon qui s'inspire du livre « Bienvenue, place Beauvau » pour attaquer François Hollande. Nous écouterons l'un de ses partisans, le sénateur Les Républicains Philippe Bas. En Russie, Alexei Navalny, condamné à 15 jours de détention après avoir manifesté contre la corruption hier. Navalny qui est aujourd'hui la principale figure de l'opposition à Vladimir Poutine. Isabelle Labéry nous dressera son portrait. La grève générale illimitée a donc débuté ce matin en Guyane à l'appel de l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais. Un démarrage timide pour le moment. À Cayenne, la plupart des magasins sont ouverts et les stations-service sont approvisionnées. Mais un peu partout dans le département, des barrages sont en place pour bloquer la circulation. Les grévistes entendent dénoncer un taux de chômage de plus de 20%, deux fois supérieur à la moyenne nationale. Ils mettent en cause aussi la montée de l'insécurité en Guyane, avec 42 homicides en 2016, qui en fait le département le plus meurtrier de France. Il y a enfin l'explosion de l'immigration clandestine, en provenance notamment du Brésil ou du Suriname voisin. Dans ce mouvement de protestation, les enseignants, les parents et les élèves sont en première ligne. Ils étaient plusieurs centaines aujourd'hui rassemblés devant le rectorat à Cayenne. Le reportage de Caroline Marie d'Outre-mer Première.
La fusée n'a pas décollé, mais c'est la Guyane qui va décoller, et l'école qui va décoller.
L'éducation nationale concentre une bonne part des revendications du mouvement citoyen en Guyane. Tout d'abord, les constructions scolaires. Pour être en phase avec la croissance démographique galopante du territoire, il faut construire chaque année de nouveaux établissements, mais les budgets ne suivent pas. Résultat, près de 5000 élèves sont sur liste d'attente. Autre problème, la scolarité n'est pas gratuite ici. Alexia Acelos, 16 ans, élève de première.
Il y a vraiment une inégalité à l'école parce qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc il y a aussi la gratuité de l'école qui est une de nos priorités. Par exemple, on paye 150 euros pour acheter les manuels qu'on nous demande d'acheter. C'est trop cher et il y en a, ils viennent sans manger parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine. Ils ne peuvent pas aller dans un libre-service pour s'acheter à manger.
Faute de moyens, beaucoup d'élèves décrochent. La plupart disparaissent dans la nature. Bruno Niederkorn, du STEG UTG.
Le Sinamari à Kourou ont été évalués de manière officielle à plus de 2000 enfants entre 16 et 25 ans dont on ne sait même pas où ils sont. Ils sont inscrits ni à Pôle emploi, ni à la mission locale, ni à la mairie. Ils ne sont inscrits nulle part. On ne peut pas continuer comme ça à abandonner sa jeunesse.
Les parents s'inquiètent pour ces jeunes, souvent livrés à eux-mêmes.
Ça engendre de l'insécurité.
Des enfants qui sont happés par la rue.
Demain, une grande marche pour l'éducation en Guyane est prévue à Cayenne.
Caroline Marie, Outre-mer Première. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a décidé d'envoyer en Guyane plusieurs de ses ministres pour rencontrer les acteurs du mouvement. Ils arriveront sur place avant la fin de semaine. Mais le ministre de l'Intérieur lance d'ores et déjà un avertissement aux grévistes. On ne dialogue pas en cagoule, a dit Mathias Feckel en faisant allusion au groupe dit des 500 frères, des militants cagoulés en pointe dans les manifestations. Un invité dans ce journal pour mieux comprendre la situation guyanaise, Serge Mamlamfouk, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Guyane. Bonsoir.
Bonsoir.
Serge Mamlamfouk, la Guyane est un département français. Alors peut-on dire finalement que cette départementalisation a échoué ?
Alors tout à fait. On a affaire à une société construite sur les fondements d'une colonie, la colonie française de la Guyane. Et cette colonie a été transformée, comme vous le rappelez, en département de la République française en mars 1946. Et que signifie cette transformation ? C'est une transformation qui résulte d'une longue lutte politique menée par des leaders guyanais, par des hommes politiques guyanais, qui voulaient que la départementalisation débouche sur un développement économique sur le modèle de la France métropolitaine. Il y avait cette promesse, en quelque sorte, de la départementalisation qui aurait donné lieu à un développement économique comme cela s'est produit en France au lendemain de la guerre avec les plans quinquennaux qui ont réussi à enclencher une croissance, comme vous le savez, la croissance des 30 glorieuses. Eh bien, en Guyane, ça s'est pas produit. Et aujourd'hui, on a un vaste département, ayons à l'esprit également que la Guyane, c'est un pays dont la superficie est un peu supérieure à l'Autriche. Dans ce pays, on a une société qui souffre depuis plus d'un demi-siècle, pratiquement au lendemain de la départementalisation, qui souffre d'inégalités du développement avec des zones relativement bien équipées sur le littoral.
Comme Kourou, la base de Kourou, Cayenne.
Voilà, le littoral, c'est Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Saint-Georges. Ça, c'est ce qu'en Guyane, on appelle le littoral, la bande littorale. Et puis, dans l'ouest du pays et dans le sud, vous avez des zones où parfois l'eau courante, l'alimentation électrique permanente, ainsi que les télécommunications performantes, tout ça fait largement défaut. Et donc, le pays tout entier s'est dressé contre cette situation et a vu dans ces grèves, dans ces mouvements de protestation, et a vu là l'occasion de poser les problèmes de fond de la Guyane pour qu'ils reçoivent une réponse de la part du gouvernement.
Alors justement, à l'origine de ce mouvement, il y a l'Union des travailleurs guyanais. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des velléités indépendantistes dans ce mouvement ?
Non, on ne peut pas le dire. L'Union des travailleurs guyanais, l'UTG, est effectivement un syndicat qui a une forte assise dans le pays et qui milite depuis de longues années en faveur de l'indépendance. Mais le mouvement d'aujourd'hui n'est absolument pas sur ce plan-là. Je rappelle, il s'agit de travailleurs, de socio-professionnels qui posent des problèmes touchant aux conditions de travail, des travailleurs qui posent des problèmes de conditions de travail et de vie. Le mouvement qui paralyse toute l'activité économique de la Guyane, ce mouvement est porté et soutenu par tous les acteurs de la vie politique, de la vie économique, de la vie culturelle et de la vie religieuse. Vous savez que la Guyane est un pays de croyants. Les églises se sont également impliquées dans ce mouvement. Donc il ne s'agit absolument pas d'un mouvement qui serait porté par l'idéologie anticolonialiste, mais c'est un mouvement qui souhaite que tout cela débouche sur des réponses pour apporter à la Guyane une situation où la vie serait dans de meilleures conditions, dans des conditions qui soient proches de ce que l'on trouve dans les départements de la France, y compris dans les autres départements d'outre-mer.
Hein. Donc il n'y a pas de rejet de la France, selon vous, aujourd'hui en Guyane ?
Absolument pas. Ça, n'importe quel observateur peut vous le dire, il n'y a pas de rejet de la France. Il y a une demande de l'intervention de la France. En revanche, il y a également une demande, non seulement que les problèmes que j'ai évoqués de la Guyane soient pris en charge, mais que ces problèmes soient pris en charge tels que le pensent les Guyanais. Et là, il y a effectivement, il peut y avoir une opposition, voire une contradiction entre la situation que vit le pays, un département de la République française, et puis un département qui n'est pas satisfait de la situation qui lui est faite.
Dernière question, Serge Mamlamfouk. Est-ce que l'avenir de la Guyane française passe nécessairement par une forte immigration en provenance des pays voisins ? Est-ce que c'est une condition sine qua non de son développement économique ?
C'est ce que l'on a pensé pendant tout le temps de la colonisation. C'est ce que l'on a pensé encore dans les années 1960, au moment où on lance des plans de développement pour la Guyane, lorsque on estime que la Guyane n'est pas suffisamment peuplée. Aujourd'hui, la question ne se pose plus comme ça. Aujourd'hui, les forces vives du pays, les décideurs, qu'il s'agisse des représentants élus ou des chefs d'entreprise, pour ces décideurs, l'immigration doit être contrôlée, doit être stoppée dans un premier temps, contrôlée pour que la Guyane n'accueille pas les masses de migrants qui arrivent sur un territoire qui n'a plus aujourd'hui les capacités de les installer et de leur offrir des conditions de travail satisfaisantes.
Serge Mamlamfouk, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire générale de la Guyane française, ouvrage paru aux éditions Ibis Rouge. On en vient maintenant à la campagne présidentielle avec cette contre-attaque judiciaire du camp Fillon. Jeudi soir sur France 2, le candidat de la droite avait mentionné un possible cabinet noir à l'Élysée qui orchestrerait ses déboires judiciaires. François Fillon, qui s'inspire d'un livre Bienvenue Place Beauvau, un ouvrage qui évoque une structure clandestine sans en apporter la preuve. Le camp Fillon a donc décidé de saisir la justice pour qu'elle enquête sur un certain nombre d'infractions présumées que révélerait le livre, corruption, trafic d'influence ou atteinte à la vie privée. Parmi les élus fillonistes mobilisés pour cette contre-attaque, il y a Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat.
Page 24, existence d'une structure clandestine dans l'appareil policier. Page 26, un magistrat précise qu'il n'y a plus d'instructions écrites au parquet, mais que des consignes sont données oralement. Il y a des notes préparées par la police, une fois triées par la hiérarchie. Ces notes sont adressées par motard quotidiennement à l'Élysée. Eh bien, nous avons décidé de saisir le procureur financier, le procureur de la République, pour qu'il apprécie l'opportunité d'ouvrir une enquête. Et ça n'est pas une bonne chose que nous en soyons arrivés là. Et croyez-le bien, si je pouvais me dispenser de faire une requête devant la justice, je préférerais.
C'est Charles Pasqua qui disait « Quand il y a un incendie, on allume un contre-feu ». Vous êtes aussi dans la tactique du contre-feu, non ?
Cette structure clandestine qui existerait, elle joue bien un rôle dans le fait que semaine après semaine, des informations sortent. Il faut bien qu'elles viennent de quelque part, ces informations.
Le sénateur LR Philippe Bas répondait à Frédéric Mettezo. François Fillon qui a rassemblé ce soir à Nantes environ 5000 militants selon son entourage. Un peu plus tôt, le candidat de la droite avait dû changer de train pour échapper à plusieurs dizaines d'opposants. Sans surprise, l'avocat général de la Cour d'assises spéciale de Paris a requis ce matin la réclusion criminelle à perpétuité contre le terroriste Carlos Illich Ramirez Sanchez et jugé pour l'attentat contre le drugstore Publicis en 1974 à Paris qui avait fait 2 morts et 34 blessés. Florence Turme, vous suivez le procès pour France Culture et cet après-midi, ce sont les défenseurs de Carlos qui ont pris la parole.
Dans cette affaire, commence Maître Francis Villemain, il y a 2 faits incontestables. L'attentat du drugstore Saint-Germain et la prise d'otage de La Haye. 2 faits entre lesquels l'avocat général a dressé un pont accusatoire. Lui va s'attacher à le détruire, avec humour parfois. Robert Bourgis est venu ici vous tailler un beau costume sur mesure. Avec véhémence, surtout tout au long de sa plaidoirie, pour dénoncer un droit injurié pendant 43 ans, des preuves torturées, des témoins qui ne reconnaissent personne, une instruction sous perfusion artificielle pour reculer le transfert légitime de Carlos vers le Venezuela. L'avocat se rapproche de la cour. Tous ces témoignages, je vous demande de faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Il glisse au passage une autre piste, celle d'une étrange nébuleuse antisémite abandonnée dès le départ par les enquêteurs. Mais j'ai un problème, avance Francis Villemain. Un problème, c'est Carlos. Il ne facilite jamais la tâche de ses avocats. Il vous rappelle sa violence, les exécutions de sa main. Il vous pousse à le condamner sur un champ de ruines. C'est un homme confortablement installé sur 2 condamnations à perpétuité. Une 3e ne changera rien à son destin judiciaire. C'est l'inversion du logiciel habituel, s'enflamme l'avocat. Si vous le condamnez, il gagne. Si vous l'acquittez, il perd. Alors acquittez Carlos, conclut-il dans un dernier élan verbal. Il passera ses nerfs sur ses avocats.
Florence Turm, merci. Terminons ce journal avec la situation en Russie où le régime Poutine continue à pourchasser ses opposants. Nouvelle illustration aujourd'hui, Alexei Navalny, principale figure de l'opposition russe, a été condamné à 15 jours de détention. Navalny, coupable d'avoir manifesté hier contre la corruption avec plusieurs dizaines de milliers de personnes dans tout le pays. Des centaines ont été arrêtées. À 41 ans, Navalny a choisi de défier Vladimir Poutine jusque dans les urnes. Son portrait avec Isabelle Labéry.
Avocat et blogueur infatigable, Alexei Navalny se fait connaître en 2011 lorsqu'il organise les gigantesques manifestations contre la fraude aux élections législatives. Il a 35 ans, une évidente volonté d'en découdre et le sens de la formule. Dans sa bouche, le parti au pouvoir, Russie Unie, devient le parti des voleurs et des escrocs. Alexei Navalny ouvre une fondation de lutte contre la corruption et dénonce régulièrement les malversations des élites. Sa dernière vidéo, visionnée près de 13 millions de fois, vise l'entourage du Premier ministre Medvedev.
Dmitri Medvedev, premier ministre et бывший président России.
Alexei Navalny fait souvent l'objet de reportages à charge à la télévision publique. C'est un habitué des tribunaux, cette fois condamné à des peines administratives, placé 1 an en résidence surveillée, condamné aussi à 2 reprises pour détournement de fonds. Sa personnalité fait polémique. Il n'a pas non plus totalement coupé les liens avec la sphère nationaliste. Mais son curriculum vitae chargé n'altère en rien sa popularité. Dans un pays sans opposants, ce grand russe aux yeux clairs entend bien être le challenger de Vladimir Poutine. Poutine à la présidentielle de 2018.
Isabelle Labéry. La disparition d'une grande figure des droits de l'homme, Mario Betati, est mort la semaine dernière à l'âge de 79 ans. D'origine niçoise, professeur de droit international, Mario Betati était le théoricien du concept d'ingérence humanitaire avec Bernard Kouchner. Un mot du temps demain, du soleil sur la façade est des frontières allemandes au pourtour méditerranéen. Ailleurs, un temps plus nuageux avec un risque d'averse. Les températures maximales très douces, 15 à 20 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.